Bonjour Frédéric Castello.
Bonjour.
Vous êtes candidat aux législatives sur la deuxième circonscription de la Charente-Maritime. Vous représentez le parti Lutte Ouvrière de Nathalie Arthaud. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ?
Alors, voilà mon nom, vous l'avez dit. Je suis ouvrier de l'aéronautique, hein, j'étais électronicien, réparateur de machines-outils, et là je suis à la retraite. Voilà, j'ai été candidat, toujours, jamais élu, depuis plusieurs occasions, et toujours dans la même circonscription, la deuxième, depuis, 2008, je crois. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je suis par ailleurs militant syndicaliste. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire de général.
Quel est votre parcours politique ?
Alors, mon parcours politique, j'ai commencé à militer en 1966, aux Jeunesses communistes. Et puis, avec la scission qu'il y avait eu, le départ de Krivine, d'Alain Krivine, des Jeunesses communistes dans ces années-là, j'étais parti du PC, et donc de la Jeunesse communiste, et j'ai donc à ce moment-là, derrière, à ce que notre parti qui s'appelle le Trotskiste, hein, l'organisation Trotskiste. Donc voilà, cette Arlette Lagui avant et celle de Nathalie Arthaud, enfin, qui lui a succédé maintenant. J'ai donc... eu un baccalauréat de technicien en électrotech et puis j'ai donc travaillé dans les entreprises depuis l'âge de 19 ans très exactement, voilà. J'ai toujours fait à peu près ce métier-là, mais dans différents branches d'industrie, hein, dans la fabrication de composants électroniques, dans l'imprimerie et puis dans l'aéronautique après. Voilà.
Alors Frédéric Castello, est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous vous présentez de nouveau à cette élection ?
Alors c'est parce que malheureusement le combat nécessaire pour essayer de limiter les reculs sociaux qu'encaissent les travailleurs, donc la majorité de la population, ainsi que le maintien d'une perspective d'un changement profond de la société, d'une révolution sociale, c'est nécessaire. Et c'est d'autant plus nécessaire que pour les hommes et les femmes de la classe ouvrière, les difficultés croissent d'année en année. Cela fait 40 ans que l'on dit que le chômage il devrait pouvoir disparaître, que on devrait pouvoir vivre correctement. On voit que, d'une part, le nombre des chômeurs stagne en ce moment, mais la plupart du temps, c'est plusieurs millions. On pense que, nous, 3,5 millions de chômeurs, c'est totalement inacceptable. On pense que la situation du pouvoir d'achat est totalement en dessous de tout, en plus avec l'inflation qui redémarre maintenant. On est un peu plus de 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté dans un pays comme le nôtre, qui est l'un des plus riches du monde. C'est aussi totalement inacceptable, et que donc c'est ces conditions-là qu'il faut, d'une part, changer immédiatement en essayant d'améliorer ce qui peut l'être, et surtout d'essayer de préparer les conditions et les esprits pour une révolution sociale. La classe bourgeoise, les propriétaires de capitaux ont fait leur temps, comme les nobles avant la Révolution française. Ben maintenant, il faut les remplacer. Alors, les bourgeois ont remplacé les nobles. Maintenant, il s'agit que les travailleurs puissent gérer la société de manière à ce qu'elle fonctionne pour le bien commun, pour répondre aux besoins de la collectivité et non pas à l'avidité d'une poignée de milliardaires, comme on le voit à l'heure actuelle. Voilà le sens de mon combat.
Alors, on y reviendra. Votre candidate à la présidentielle, Nathalie Arthaud, avait terminé dernière lors du premier tour de la présidentielle, oui, avec 0,5%. Comment vous analysez ces résultats et qu'attendez-vous du scrutin des 12 et 19 juin ?
Alors, l'analyse du résultat est simple. Hein. Les gens ne croient pas que leur situation puisse changer. Et donc, ils s'en remettent à des sauveurs suprêmes, à des gens qui seraient susceptibles de changer les choses à leur place, alors que les changements profonds de la vie de tous les jours ont toujours été le fait de la mobilisation des gens, de leur intervention directe sur la vie politique, sur les mesures sociales qui sont prises ou pas prises. C'est ça qui a amené les progrès. On parle toujours de la sécurité sociale, des congés payés, toutes ces choses-là qui seraient extrêmement intéressantes dans la société française dans laquelle on vit. Ces choses-là n'ont jamais été obtenues par les mesures gouvernementales ou par des parlements. C'est d'abord et avant tout la grève et la rue qui a imposé ces mesures et non pas un quelconque sauveur suprême. Donc voilà, les gens ne croient pas à ces perspectives-là, ne pensent pas qu'un mouvement profond comme 36, 45, 1068 puisse recommencer. Et donc, ils s'en remettent, je dirais, à des faiseurs d'illusions, hein, qui, ça recommence. Alors que ce soit maintenant l'extrême droite, hein, qui cherche à masquer la responsabilité des capitalistes qui dirigent de fait l'ensemble de cette société, en accusant les immigrés d'être eux responsables de la situation des gens, alors que c'est un énorme mensonge, évidemment, c'est pas les immigrés qui licencient ou qui bloquent les salaires, hein, ce sont les entrepreneurs, les patrons et l'État patron, hein, qui mènent cette politique-là. Alors voilà, c'est... Toutes ces choses-là auxquelles les gens ne croient pas, hein, ils pensent pas qu'ils sont suffisamment capables de prendre un petit peu de leurs choses en main, et pour ça ils se retournent pour une bonne partie d'entre eux contre plus faibles qu'eux, en l'occurrence les immigrés, les musulmans, bref, quelqu'un qui ne soit pas très puissant. Voilà, ça c'est. Alors, ce qu'on en attend, ces élections législatives, c'est une fois de plus un petit sursaut de conscience qui permette que un vote le plus important possible pour Lutte ouvrière et ses candidats redonne un peu le moral à au moins une fraction des travailleurs pour repartir au combat. Hein, que les uns et les autres voient dans ce résultat électoral le fait qu'au moins une partie d'entre eux pense qu'ils sont capables de quelque chose, qu'ils ne sont pas les derniers des derniers et qu'il n'y aurait qu'un charlatan là-haut qui pourrait changer les choses. Voilà ce qu'on espère de ce scrutin et pourquoi on s'y présente systématiquement.
Vous espérez une cohabitation
Alors,
vous êtes satisfait de la nomination d'Elisabeth Borne comme Première ministre?
Alors, d'une part, Elisabeth Borne, pas en quoi on serait... Il n'y a rien de satisfaisant dans cette candidature. C'est tout simplement la continuation des 5 années précédentes. Je rappelle qu'Elisabeth Borne, on l'a dit, elle est responsable en bonne partie, hein, pas qu'elle, évidemment, l'ensemble du gouvernement, le président de la République et tout le monde, du recul absolument scandaleux pour un million de chômeurs. Mais aussi, et nous on se rappelle, elle est responsable des mesures prises contre toute une série de menus avantages dont les travailleurs disposaient dans le Code du travail et qui ont été remises en cause avec les ordonnances Macron et la suite, puisqu'elles ont continué pendant les deux premières années du dernier quinquennat, à lequel Elisabeth Borne a mouillé la chemise, pour ne pas dire plus. Elle était aussi l'une des dirigeantes de la SNCF quand il y a eu une grande grève contre laquelle elle s'est battue férocement. Hein, tout ce qui est la possibilité d'enfoncer les petites gens, d'enfoncer les travailleurs, c'est son plat préféré, hein, c'est ce qu'elle fait le mieux pour la bourgeoisie. Donc c'est une servante servile des grands patrons, et donc voilà, il n'y a aucun motif de satisfaction. De ce point de vue-là, la cohabitation, ça, tout ça, c'est des transactions politiciennes. On voit pas bien comment mathématiquement toutes ces choses-là pourraient se faire, hein. Du point de vue des résultats électoraux, il faudra un basculement spectaculaire de l'opinion des travailleurs. Peut-être, hein, ma foi, rien n'est impossible, mais c'est hautement improbable. Et en tout cas, c'est, une voie de garage, une fois de plus, une illusion que l'on agite devant les masses populaires pour les détourner de la mobilisation qui est nécessaire. Là, on sait bien, hein, la retraite, le pouvoir d'achat, etc., toutes ces choses-là se feront pas au Parlement, quel qu'il soit, même avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, il faudra descendre dans la rue, il faudra faire grève, donc il n'y a aucune illusion. Avec sa façon à lui, Jean-Luc Mélenchon sème des illusions parmi la population travailleuse, désarme les travailleurs, puisque lui-même le dit. Voter pour lui, c'est éviter d'avoir à faire grève, d'avoir à manifester. Alors, on n'invente pas, c'est lui qui l'a dit. Donc c'est aussi quelqu'un qui est un adversaire des travailleurs et non pas quelqu'un qui serait à leur service.
Le combat continuera donc.
Voilà.
Frédéric Castello, vous vous présentez donc sur cette deuxième circonscription de la Charente-Maritime Roche-Voronis. Quelles sont vos priorités pour ce territoire?
Alors, pour ce territoire, d'abord, je rappelle que les députés sont élus pour des lois nationales. Hein. Ils peuvent au mieux porter des revendications territoriales, des aménagements ici ou là, mais ils n'ont pas, contrairement à une représentation régionale ou départementale, la possibilité de voter des mesures concrètes. Alors, les mesures pour le territoire, je crois que l'une des plus importantes, c'est exactement comme au niveau national, c'est de restaurer le secteur de la santé, que ce soit à l'hôpital, en embauchant, parce que c'est la mesure principale qu'il faudrait pour que l'hôpital recommence à entrevoir un fonctionnement normal, donc la réouverture de lits, et puis la médecine de ville, hein, avec le recrutement, ça se fait pas du jour au lendemain, de nouveaux médecins, et puis le fait que les médecins, comme les professeurs, etc., aient la nécessité de s'installer dans les territoires où il y a un déficit de médecins. Bon, on pourrait citer aussi la nécessité des transports. Il y a dans le département qui est très étendu, et comme il n'y a aucun contrôle sur le logement, l'agrandissement des cités, etc. On trouve du travail où on peut, et après il faut se débrouiller par soi-même à trouver un logement qui soit abordable par tout un chacun. Et entre le logement et le lieu de travail, faut bien se déplacer. Tout ça est l'anarchie capitaliste, hein, qui règne en maître là-dedans, et qui fait que, une fois de plus, ceux qui sont obligés de se débrouiller de cette situation, ce sont les individus, hein, l'individualisme règne en maître, ce sont les travailleurs, et c'est une catastrophe. Au lieu d'avoir une planification de la construction des logements nécessaires et une planification de la construction des entreprises pour que tout ça se fasse un peu en harmonie et de limiter un maximum les déplacements, toute cette chose-là n'est pas organisée parce que c'est l'anarchie capitaliste qui règne en maître, et au moins une première mesure de limitation, ce serait de développer considérablement les transports en commun. Bon, par exemple, sur la ville de Rochefort, mais il en va de même à La Rochelle. Quand on est embauché dans du travail en équipe, hein, dans les grands commerces, dans les grandes surfaces ou dans les entreprises, pour les embauches du matin ou pour les débauches le soir, il n'y a pas d'autocar. Voilà. Alors, donc, les gens sont obligés d'aller en voiture. C'est un exemple simple que je connais très bien, voilà, que je cite pour illustrer mon propos.
Et dans le secteur rural, effectivement, les possibilités de mobilité sont limitées aujourd'hui.
Alors, dans le secteur rural, évidemment, plus on retombe sur ce que j'ai dit, plus on est obligé d'aller loin pour se loger, et plus on ne trouve pas du travail ou une occupation proche du domicile, ça impose un déplacement. Hein, ça impose un déplacement. Alors c'est ça qu'il faudrait réorganiser fondamentalement. Hein, c'est le fait que les gens puissent vivre évidemment le moins entassés possible les uns sur les autres, et en même temps le plus près possible d'un lieu d'activité, hein, qu'il y ait des bourses d'emploi pour pouvoir s'échanger les emplois, qui n'est pas le barrage patronal à chaque fois pour qu'on puisse se rapprocher de notre domicile, puis avoir des logements qui soient abordables dans tous les lieux du département, dans tous les territoires du département, et que on ne soit pas réduit à aller habiter à 20, 30 ou 40 kilomètres du lieu où on travaille à cause des prix des logements, que ce soit à La Rochelle, à Rochefort, etc., pour ce qui est même à Surgères, même si les prix sont un peu moins élevés, c'est ce qui serait nécessaire immédiatement. Et alors, pour pallier à la situation présente, le développement des transports est absolument indispensable. Et même dans le fond du département, hein, si on parlait du côté de Jonzac, tout ça, où il y a quelques petites entreprises, on aurait le même problème de transport, hein, où il faudrait augmenter la quantité de transport qui permettent aux gens qui travaillent avec des fois des horaires décalés, hein, même dans des petits supermarchés, parce que les horaires sont aussi décalés là-dedans, pouvoir y aller en transport en commun plutôt qu'en transport individuel. Parce que le covoiturage, ça existe un peu, mais malheureusement, c'est pas la solution qui permet d'économiser le plus en termes de pollution.
Vous l'avez dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat est au cœur de vos préoccupations et de votre programme. Quelles sont vos solutions pour aider les foyers les plus modestes à boucler leur fin de mois ?
Alors, pour donner une idée, Cofidis, là, qui est un organisme de prêts quasiment usuriers, a fait une enquête auprès de, je ne sais plus, un peu plus de 1500 personnes. Et ces personnes-là disaient que, il leur manquait environ 490 euros mensuellement sur leurs revenus. Deux, qu'elles évaluaient, elles, ce qu'il faudrait mensuellement pour vivre correctement pour une personne à 2600 euros mensuels. Voilà, donc toi, lutte ouvrière, qui revendiquons un SMIC à 2000 euros net, on est même en dessous de cette enquête de Cofidis, qui d'ailleurs reflète à peu près ce qu'on ressent quand on discute avec les gens dans les entreprises, que ce soit des commerces ou que ce soit des usines, ce besoin d'avoir un pouvoir d'achat qui permette de faire face à l'augmentation vertigineuse des prix. Alors évidemment, maintenant, ce qui est sur le devant de la scène, c'est le prix de l'énergie, mais on pourrait parler des loyers ou des traites, enfin, etc. C'est quelque chose qui affaiblit considérablement les marges de manœuvre des ménages, et ça, c'est totalement inacceptable. Donc la première mesure, c'est 2000 euros net pour le SMIC. La deuxième mesure importante, c'est l'augmentation proportionnelle des salaires. Donc, je le disais, les gens pensent que c'est 490 euros. On dit que c'est entre 300 et 500 euros d'augmentation de salaire qu'il faudrait mensuellement pour les travailleurs, pour les gens qui vivent de leur travail, qui vivent uniquement de leur travail. Et la troisième mesure, la plus importante, qui est l'indexation des salaires sur les prix, qui est une très vieille revendication du mouvement ouvrier que la gauche, avec Pierre Mauroy, a remis en cause en 1983, qui existait alors très partiellement, très tripatouillé, etc., mais qu'il faudrait mettre en place en ce moment, avec imposer que les salaires augmentent en même temps que les prix. Et ça, ce serait la meilleure incitation, comme disent les politiciens, pour que le patronat y regarde à deux fois avant d'augmenter leur prix, en sachant qu'à partir du moment où ils l'augmentent, ils auront l'augmentation des salaires équivalente tout de suite après. Donc voilà, c'est une mesure radicale qui permettrait de contrôler cette inflation, au moins du point de vue des travailleurs. Et ça, c'est pour nous ceux qui passent d'abord, l'intérêt des salariés, 30 et quelques millions de personnes dans ce pays, puisqu'il faut y inclure les chômeurs, les ex-travailleurs que sont les retraités, etc. Bon, voilà, ces gens-là, puisque nous on pense que les pensions de retraite devaient aussi être indexées sur le coût de la vie, et donc de ce point de vue-là, ça permettrait de bloquer cette infernale inflation, voilà, de façon assez radicale.
Dernière question, quel message souhaitez-vous adresser aux électeurs ?
Simple, on a une société qui bat de l'aile, alors on l'a dit du point de vue social, économique, on le sait aussi du point de vue environnemental. Dernièrement, regardez, Engie vient d'acheter pour plusieurs milliards de mètres cubes de gaz de schiste aux États-Unis, voilà. Alors, ce qui était... on nous avait dit que tout ça, on allait le limiter. Effectivement, en théorie, c'est paraît-il limité en Europe, voilà. Là, ça vient d'être mis en cause très concrètement. Bon, je prends cet exemple-là, on pourrait prendre le Mediator, on pourrait en prendre d'autres, mais du point de vue de l'environnement, il y a une attaque permanente de l'environnement et des conditions de vie et de travail des gens au même niveau. Le nœud de ce problème, c'est ceux qui ont le pouvoir dans cette société, je l'ai dit précédemment. Le pouvoir dans cette société, il est ni à l'Élysée ni au Parlement, il est dans les conseils d'administration des grands groupes capitalistes, qui sont les donneurs d'ordre pour toute une série de petits patrons qu'ils étranglent par ailleurs. Voilà, et c'est ce nœud-là qu'il faut arriver à remettre en cause, parce que c'est lui qui entraîne et la catastrophe sociale, la catastrophe environnementale, et celle qui vient malheureusement à grands pas, là, peut-être pas l'occasion d'y revenir là, mais c'est la guerre qui vient. Parce que celle qui est déclenchée dans l'Est de l'Europe risque de nous rattraper à grands pas. Alors on peut ne pas y croire, penser qu'on passera à travers des gouttes, mais il n'y a pas de raison que peu à peu le monde entier passe dans des guerres, etc. et que nous, on reste à côté de ça. D'autant que les grands groupes capitalistes, qu'ils soient à l'Est, en Russie, en Chine ou en Occident, et là on est bien placé parce que on a les meilleurs grands groupes capitalistes du monde, veulent tous, dans cette période de pénurie, y compris pour eux, pouvoir grappiller les parts de marché des autres, que ce soit ceux des Russes, des Chinois, ou les Chinois, des Européens ou des Américains. Et donc ça débouche, comme partout dans le passé, sur la guerre et la guerre mondiale. Voilà. Donc si on veut éviter ça, il faut renverser le système capitaliste, ici, en Russie, en Ukraine, en Chine. Il n'y a pas d'autre solution pour arrêter la guerre que celle-là. Voilà.
Frédéric Castello, est-ce que vous avez quelques dates à nous annoncer dans le cadre de votre campagne ?
Donc le vendredi 10 juin à Rochefort, à 19h, il y a une réunion publique au Palais des Congrès de Rochefort. Et à La Rochelle, ce sera le mercredi 8 juin, où il y aura à la salle Amos Barbeau une réunion publique aussi de notre candidat de la première circonscription.
Frédéric Castello, merci d'avoir répondu à nos questions.
Parfait.